Toujours bon pied, bon œil. Ah, oh, mais dites-moi, alors les auditeurs n'ont pas l'image et des fois c'est pas plus mal. Bonjour Philippe Mi.
Bonjour Philippe Jacques. Je sais de quoi vous allez parler. Bonjour Diego Arada. Voilà.
Bonjour les deux Philippe.
Mais vous avez des nouvelles lunettes.
Tout à fait, qui sont roses.
Qui sont roses.
Ça vous surprend.
Tout à fait. Ça vous met le teint.
Bah voilà. Joli teint. Mais j'ai toujours eu le teint rose. Hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est le vieillissement, ça. Hein. On a un ton rose. En fait, Diego Arabal a de l'avance sur moi. Donc je pense qu'il confirmera, c'est ça. Nous, on a le teint rose.
Ben oui, nous avons le teint rose et les cuisses aussi. Et parce que nous mangeons beaucoup de carottes.
De carottes, voilà. Mais c'est vrai en plus. En plus, vous voyez, je mets de l'huile de carotte. Vous voyez, c'est pour quand je vais au soleil. Donc c'est pas.
C'est magnifique.
C'est très efficace.
Et puis surtout, tout le monde est intéressé d'avoir ce genre de renseignements.
Exactement.
Un jour, un livre en auteur.
Mais un jour, un livre en auteur parle aussi, vous voyez, des soins du visage, vous voyez, finalement.
Exactement. Et nous parlons de livres, bien sûr. Et puis, on est toujours cette semaine avec notre invité que vous allez nous présenter.
Alors, on est toujours cette semaine donc avec Lucie Plessala, puisque la semaine passée, nous avons fait avec elle donc un quartier libre, correspondant donc effectivement à la rentrée littéraire 2025, mais pas que. Hein, Lucie a aussi parlé donc de mangas, de livres jeunesse, qui ne sont pas dans la rentrée littéraire. Et on vous retrouve aujourd'hui, Lucie Plessala, pour parler effectivement du volume de livres de la rentrée littéraire.
Et on s'est posé.
Et des arcanes.
Et on s'est posé.
Pas 17, hein, des arcanes.
Hein. Mais 17 aussi.
17 aussi.
Et donc on s'est posé des questions légitimes sur cette rentrée littéraire. J'aimerais poser des questions, puisque c'est la rentrée littéraire et que nous sommes avec une libraire. J'ai vu que pour cette rentrée littéraire, il y avait 484 livres, dont 344 romans. Ça, c'est pour la rentrée littéraire de septembre 2025 de cette année. Et par contre, là où je m'interroge, c'est le pourquoi. Parce que lorsqu'on regarde un peu les chiffres, les chiffres à l'intérieur, les auteurs débutants ou peu connus, le tirage est à peu près de 350 livres.
Oui.
70% des ouvrages, tout auteur confondu, c'est inférieur à 500 exemplaires vendus.
Oui, la moyenne de vente, c'est 80 exemplaires.
10% des livres en moyenne, c'est entre 500 et 700 exemplaires vendus. 10% des livres, c'est entre 700 et 1000 exemplaires vendus. Et seulement 1% de tout ce qui sort sera supérieur à 2000 exemplaires.
2000 exemplaires, tout à fait.
Mais comment c'est possible, comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui écrivent pour en fait, le tirage moyen, c'est moins de 350 exemplaires. C'est juste pour se faire plaisir. C'est comment on le finance, qui paye, est-ce que l'État finance ce genre de choses, est-ce que c'est ça aussi la culture et que ça n'a pas de coût et qu'il faut... parce que vous imaginez le nombre de livres qui sont... Que les gens publient et qui ne seront jamais lus par personne.
Et qui sont pilés. On va laisser Diego Arabal répondre.
C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a, c'est une sorte de boutade, hein, mais il y a davantage de gens qui écrivent que de gens qui lisent.
Ben oui.
C'est pas tant la quantité de livres qui aujourd'hui pose problème, parce que dans les années précédentes, on avait aussi, et puis il y a 10 ans, il y avait 300, 400 titres qui sortaient à la rentrée. Donc c'est pas tant la quantité de titres qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a réellement une crise de lecture, c'est-à-dire que les personnes lisent moins. Alors elles lisent moins, ou du moins elles achètent moins de livres, parce que les livres sont chers, parce que c'est cher à produire, mais les livres sont chers, et donc les lecteurs font des choix en fonction des moyens dont ils disposent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de sorties, mais il y a peu de lecteurs qui sont en mesure d'acheter, comme il y a quelques années, 10 livres ou 15 livres sur l'année. Aujourd'hui, les gens sont... Aujourd'hui, un lecteur, il est autour de 3-4 livres par an. Donc on a énormément perdu en termes de lecture. Alors pourquoi est-ce qu'on...
Alors qu'on a augmenté en termes de population.
On a augmenté en termes de population. Mais ce qui fait qu'on a une pléthore de lectures, du moins de sorties, c'est aussi le fait qu'il y a des auteurs de talent qui méritent une chance. Et donc, les maisons d'édition les sortent parce qu'il faut bien tester, sachant que ça ne fonctionnera pas forcément. Et puis, ce qu'on voit comme fonctionnement, c'est qu'en fait, des auteurs très connus vendent sans problème et que les jeunes auteurs, sauf exception, ont beaucoup de difficultés à être lus parce que le fonctionnement des librairies, alors pas les librairies indépendantes, mais les librairies institutionnelles, hein, je ne citerai pas de nom, mais les grosses librairies, mettent en avant les connus parce que c'est ça qui va attirer le chaland. Le problème, c'est que quand vous mettez en avant des gens très connus et qui vont attirer le chaland, la baisse du pouvoir d'achat, pour le dire sous cette forme-là, fait que le lecteur, il va acheter un bouquin, mais il ne va pas acheter le bouquin qui est à côté, qui est peut-être très 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 bien, mais où il n'a pas les moyens d'acheter deux livres. Il en achète un.
Est-ce qu'il n'y a pas... Là, on a une libraire. Quelle est sa vision de ce que je dis? Parce que des fois, peut-être tout simplement, il y a des gens qui écrivent parce qu'ils ont des problèmes à régler personnels et c'est une sorte de thérapie d'écrire un livre. Et on le sort et il sera lu par personne, mais au moins il a été écrit. Quel est votre regard là-dessus?
Alors, pour avoir échangé avec certains auteurs, il y en a beaucoup, ils écrivent vraiment pour le plaisir. Il y en a aussi qui en effet écrivent parce qu'ils en sentent le besoin pour sortir. C'est vrai que souvent au moment de la rentrée littéraire, d'ailleurs, on a cette impression-là que des auteurs écrivent pour évacuer, faire un peu une thérapie en fait auprès des lecteurs. C'est vrai qu'on a un petit peu cette sensation-là, mais d'autres vraiment écrivent autrement pour le plaisir. C'est vrai que c'est le plaisir d'écrire. Alors quand ils sont publiés, c'est encore mieux, mais avec vraiment l'idée de pouvoir écrire les idées qu'ils ont dans leur tête, en fait.
Mais excusez-moi, Philippe, juste pour terminer, mais alors, vous, quel regard vous portez sur ce nombre de livres qui sortent chaque année? Parce que, quelque part, on se dit, si on ne le vend pas, à quoi ça sert de... On peut écrire pour le plaisir et puis le faire lire à des amis ou à envoyer des PDF pour lire, mais de passer à ce que le livre soit écrit et mis en librairie, quel est votre regard là-dessus, vous qui recevez pléthore de propositions et vous voyez bien, je ne sais pas, vous, dans votre librairie, qu'est-ce qui part? Vous êtes dans une zone de montagne, je pense que les gens qui franchissent aussi votre librairie, c'est pour aller se documenter sur ce qu'ils ont devant les yeux, c'est-à-dire la montagne, puisque vous êtes en Vallée d'Or.
Oui, bon, j'ai évidemment beaucoup de clients qui viennent pour les livres sur les Pyrénées, mais ce n'est pas ma clientèle majoritaire. Il y a beaucoup qui viennent vraiment pour s'évader, pour trouver... des romans ou des livres pour s'évader notamment. Et je pense que moi, justement, ma vision de la librairie, du libraire, c'est de trouver le livre qui va correspondre à telle personne. Parce que pour moi, chaque lecteur peut trouver son livre. Mais après, c'est vrai qu'on entend beaucoup les personnes qui viennent chercher un livre en particulier parce qu'ils en ont entendu parler ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, chaque lecteur peut avoir son auteur, peut découvrir un livre. Et enfin, chaque livre peut avoir son lecteur particulier, en tout cas.
J'avais juste une question, Lucie Plessala. Bon, aujourd'hui, vous êtes invité pour votre quartier libre, on le voit bien. Vous n'avez pas mis en avant des livres très connus, hormis Olivier Adam, Violaine Béraud, bon, qui sont deux écrivains connus. Tout le reste, c'est effectivement des livres qui ne sont pas connus. Qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à ce que disait Philippe Subercase? On en parlera dans les semaines à venir ici, du livre de Cédric Sapin de Four, « Son odeur après la pluie », qui a été vendu à 650 000 exemplaires, hein, qu'on va présenter en poche. Je rebondis sur la remarque de Diego Arrabal, parce qu'en poche, eh ben, il est à 8,90 €. Quand il est sorti, il devait être à 15 ou 16 euros. Donc on voit qu'à un moment donné, on peut acheter deux livres pour un. Comment vous avez perçu ce livre, Son odeur après la pluie, qui a été très bien vendu en librairie, alors que personne ne s'y attendait?
C'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné pour ce livre. Personnellement, je ne l'ai pas lu, toujours pas. fait partie
des livres. Je vous le recommande, je vous le recommande.
Mais oui, je sais, il faut que je le lise ce livre, mais j'y vais à reculons, j'ai peur de pleurer. Mais par rapport au retour que j'en ai, j'ai peur de pleurer. Mais après, je pense qu'en effet, il y a le côté, justement, le bouche à oreille qui a très bien fonctionné et qui a fait que un des livres qui a beaucoup marqué la rentrée de l'année dernière.
La rentrée de l'année dernière, et puis je vais vous dire, bon, c'est un livre en plus qui est écrit dans une langue absolument magnifique. Il y a un champ lexical qui est très large, hein. Il n'est pas écrit avec 1000 ou 1500 mots. J'ai souvent pris le dico en lisant ce livre. Donc il est écrit dans une langue magnifique. Et surtout, il y a une réflexion autour du chien. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui a plu au lecteur, de la relation homme-animal, qui fait véritablement réfléchir. Et comment cette relation homme-animal peut, à un moment donné, dans le monde...
Alors, vous allez sûrement nous en parler, Philippe, mais là, on est sur la rentrée littéraire, sur le livre, et on entend partout parler de crise économique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut tenir encore? Parce que je pense que la culture, c'est financé, tout ça, c'est... Il y a de l'argent public, on se fait plaisir encore un petit peu, non ?
Il y a le prix unique du livre, ce qui est quand même une exception.
Alors, le livre n'est pas soutenu par de l'argent public, contrairement aux journaux. Les livres sont parfois soutenus, c'est-à-dire les maisons d'édition sont soutenues sur des projets par des agences régionales. Par exemple, nous, dans la région, dans notre région, c'est Livres et Lectures Occitanie qui soutient des projets, mais qui soutient, je vais prendre le cas des éditions Arcane 17, nous soumettons tous les ans deux projets. Et nous sommes soutenus une fois, disons, sur les deux projets. On est généralement soutenus sur un des projets et ça tourne autour des 1500, 1600 euros, c'est-à-dire en gros entre 30 et 50% du prix de fabrication du livre. Donc vous voyez que, et nous on sort une douzaine, entre 12 et 15 livres par an. Donc ça veut dire que le soutien public est important pour des livres dont nous savons qu'ils auront du mal à vivre, mais qui méritent d'être portés au public. Mais je crois qu'il ne faut pas s'imaginer que les pouvoirs publics financent de façon forte les maisons d'édition. Les maisons d'édition font des choix. Elles vont publier des auteurs qui vendent beaucoup. Et ce qu'ils vont publier en nombre va permettre de sortir des auteurs sur lesquels ils font le pari que ça risque de marcher, ou du moins qu'ils méritent d'être connus. Mais c'est, c'est pas un domaine dans lequel on s'enrichit, quand je dis on, c'est les maisons d'édition, s'enrichissent en faisant des livres. Elles font un équilibre entre ce qui va rapporter beaucoup et ce qui va rapporter moins, mais qui mérite d'être mis en avant. Ne pas oublier que dans une maison d'édition, une grande maison d'édition, comme Flammarion ou autre, c'est entre 200 et 300 manuscrits reçus par jour.
C'est énorme.
C'est énorme. Nous, au niveau Arcane 17, sur 15 bouquins qu'on sort par an, on reçoit en gros une dizaine de propositions par jour. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions des choix. Et nous faisons ces choix en fonction non pas de la... du fait que tel auteur il va bien vendre, mais parce que nous pensons que tel ou tel titre, tel ou tel thème vaut le coup et que l'auteur a écrit quelque chose de façon qui nous plaît dans la façon de l'écrire, dans la façon de raconter, etc., etc. Donc on va s'appuyer là-dessus. Nous, on publie des gens parce que, par ailleurs, nous avons des auteurs et nous avons des soutiens parce que nous faisons aussi d'autres types de livres et que nous avons des contrats que nous passons avec des associations ou autres qui financent les livres qui vendent. Et donc, nous, ça nous permet, sur nos fonds des ventes que nous on fait, de pouvoir privilégier des auteurs où on se dit, s'il en vend 50, 100, 150, nous, notre équilibre, c'est à 300. S'il en vend 100, 150, on a quand même reçu de l'argent par ailleurs parce qu'on a fait des projets avec des institutions et que cet argent-là nous permet de faire fonctionner et de produire un livre dans lequel nous croyons. Mais c'est un coup de poker.
Et alors vous qui êtes libraire, comment ça se passe aujourd'hui la sélection, les livres qui sont dans votre librairie? Donc il y a un turnover si je comprends bien, puisqu'il y a plus de 500 livres, là, 400 et quelques là, cette année en septembre. Je crois qu'il y a une autre rentrée littéraire
et puis en janvier. Il y a tous les autres livres avant.
Oui, et puis, alors comment ça se passe? Comment on fait pour sortir un livre, en mettre un autre comment ça se passe?
Alors on fait des choix et là c'est on voit un petit peu au feeling en regardant un peu les thèmes qui sont abordés, comment on va pouvoir les présenter. On sait qu'on pourra pas tous les lire en plus, donc il faut faire vraiment des choix un peu aussi selon les coups de cœur des auteurs, les auteurs qu'on aime bien, on essaye de les prendre aussi. Enfin, c'est des choix un peu.
Donc ça veut dire que quelque part, chaque librairie a sa personnalité, a ses livres qui correspondent quelque part au propriétaire de la librairie.
Complètement. On va avoir des livres différents à présenter. On a bien sûr des livres semblables, mais à côté de ça, on a des livres différents.
D'accord.
On propose chacun.
Mais c'est spécifique aux librairies indépendantes, hein, Lucie. Oui. Dans les grandes chaînes de librairies, ça ne se passe pas du tout comme ça, quoi.
Mais non, souvent, eux, ils reçoivent leurs livres sans qu'on leur demande leur avis.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, et en même temps, ils reçoivent ce qu'on appelle les têtes de gondole. Et là, c'est quelque chose que j'ai découvert, moi, l'année dernière, en travaillant aussi avec notre diffuseur. C'est qu'on a les diffuseurs des grosses maisons d'édition. Elles placent leurs 3 ou 4 poulains en tête de gondole, mais elles exigent que le libraire d'une chaîne prenne 30 ou 40 bouquins dont ils savent qu'ils ne seront pas vendus, mais qui vont empêcher des éditeurs, des petits éditeurs ou des éditeurs indépendants d'être pris par ces chaînes-là. Nous, l'endroit où on est le mieux représenté, c'est les libraires indépendants, c'est nos partenaires directs, quoi. Les grandes chaînes, on a la chance parfois de pouvoir présenter, mais c'est les libraires indépendants qui nous font vivre.
Quand vous dites les grandes chaînes, c'est les Cultura.
Voilà, c'est ça. Oui, oui. Non, je voulais pas citer de marques, mais Fnac, Cultura. Vous avez aussi des chaînes de librairies. Il existe des chapitres. Je sais pas s'ils fonctionnent encore, etc. Mais on a des grandes chaînes comme ça qui ont des acheteurs. Et à un moment donné, ils avaient des libraires. Il n'y a plus de libraires dans ces grandes chaînes. Ce sont des acheteurs. Et ces acheteurs sont sollicités par les diffuseurs des grandes maisons d'édition. Et les maisons d'édition, les grandes maisons d'édition, mettent donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les têtes de gondole, ceux dont ils savent qu'ils vont vendre. Et puis, ils bloquent en mettant d'autres livres. Alors, d'une part, pour les vendre.
Ça veut dire que sur le nombre de tables, ils prennent des mètres carrés
voilà.
qui ne peuvent pas être libérés.
Ils leur disent on vous donne, parce que vous les voulez aussi, par exemple, allez, je ne vais pas citer Bussy, vous allez avoir 100 Bussy à vendre sur l'année, mais vous allez nous prendre à côté de ces 100 Bussy, dont vous êtes sûr que vous allez les vendre, vous allez avoir 3-4 de exemplaires d'une dizaine de titres différents que la chaîne est obligée d'exposer. Or, la place n'est pas infinie. Donc, tout ce qui est pris par ces petits livres, qui de toute façon ne seront pas vendus, c'est autant de prix sur les libraires, sur les éditeurs indépendants.
C'est... ça s'appelle du commerce.
Ah ben c'est le commerce, oui.
C'est du commerce.
Parce qu'on sait que l'économie... Dans les chiffres, on continue. Je crois qu'un auteur va toucher entre 1 et 2 euros.
Donc s'il a... c'est 10%. Il touche à peu près 10% du prix de vente.
Du prix hors taxe. Ouais. Du prix hors taxe. Pas du prix TTC. Du prix
hors taxe. Si on est à 14 euros, on est à 1 euro. Je veux dire, c'est pas là où on fait fortune, sauf si effectivement... le livre devient...
Mais donnez un chiffre, Philippe Supercaz. On va dire, par exemple, vous touchez 1,40€ sur le prix hors taxe, vous vendez 1 000 exemplaires, vous avez touché 1 400€.
Voilà.
Vous en vendez 10 000, vous en avez vendu, vous avez touché 14 000. Mais à mettre en perspective avec les chiffres que vous avez donnés.
Mais les
c'est-à-dire
chiffres,
que là, c'est les 1%. Quoi.
Ouais, les 1%. Donc, voilà. On va dire, si on vend 200 livres, on va se faire 200 euros. Quoi. 200,
ben 240 euros.
240
oui.
euros.
Alors, oui, oui. Voilà. C'est un petit week-end à l'océan.
Ouais. Et encore, vous allez les recevoir en une fois au bout d'une année.
Voilà. Donc, en fait,
et alors, vous ne le recevez pas tous les mois.
Qu'est-ce qui explique en fait aujourd'hui le nombre de tapuscrits là que vous recevez qui est colossal, le nombre quand même qui est important de livres qui sortent chaque année et en fait le peu qui est acheté et lu.
Mais c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. Alors après, on posera la question à Lucie, mais il y a un déséquilibre extraordinaire entre la production de tapuscrits et ce qui est vendu. C'est-à-dire que ce qui est en magasin pour être vendu, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui est écrit.
Ouais.
Et ce qui est vendu sur ce qui est en magasin, c'est aussi une goutte d'eau par rapport à ce qu'il y a en magasin. La durée de vie d'un bouquin, aujourd'hui, c'est 6 mois. C'est-à-dire entre deux rentrées. Au bout de 6 mois, s'il n'est pas vendu... Ben, généralement, les libraires les font remonter. Alors, les grandes chaînes le font remonter.
J'ai l'impression que même dans des... On voit, on va dans une librairie, par exemple, au mois de mars, on y revient au mois de mai, on ne voit plus du tout le même livre.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, au bout de 2 mois, déjà, ça tourne. Alors, il y a les très gros livres, comme disait Philippe Tubercast, c'est-à-dire les 1% qui vont toujours y être. Et puis, tout ce qui ne marche pas, effectivement, et c'est pilonné.
On détruit.
Oui.
Oui.
On détruit.
Sauf si la maison d'édition vient les récupérer. Et ça n'existe quasiment pas. Les livres sont pilonnés.
C'est incroyable. Quand même. C'est incroyable. Ouais. Donc en fait.
On vous a démoralisé là, je sens Philippe.
Non, mais pour moi,
il commençait à s'intéresser à la lecture.
Ouais, vous a déçu. On n'aurait pas dû parler de ça. On a eu tort.
Je suis effaré parce que je suis effaré de que je sais pas. J'arrive pas à comprendre que il y ait ce nombre de gens qui écrivent. J'ai quand même des fois plus l'impression que les gens qui écrivent, c'est vraiment pour un plaisir personnel et bon, et ils seront jamais lus.
De toute manière, il y a toujours eu, Diego Rabal l'a très bien dit, il y a toujours eu une surproduction littéraire. Depuis toujours en France, il y a eu une surproduction littéraire. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier, ça continuera demain, ça continuera après-demain.
Ce qui est nouveau, c'est l'inflation de cette surproduction. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait plein de gens écrivent. Il y a 20 ans, plein de gens écrivaient, mais... Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, des gens écrivaient et mettaient dans un tiroir. Depuis une trentaine d'années, on a écrit, donc on veut que ça soit publié.
Non, on est persuadé qu'on a écrit au rang du siècle.
La plupart du temps, les auteurs...
Hein, c'est un problème d'égo.
Ben, je ne sais pas si c'est un problème d'égo, mais en tout cas...
On peut le dire, oui.
Mais en tout cas, la plupart du temps... un nombre important d'auteurs. Ce qui est important, c'est d'être édité, c'est pas d'être vendu. Et nous, on a ce problème-là. C'est-à-dire que quand on a un auteur où ce qu'il nous a proposé nous plaît, nous, on insiste beaucoup auprès de lui sur le fait que le fait d'être édité n'est que le début d'un chemin. Et que pour que son livre
vive,
ben il faut que lui, là il y a des salons, donc on l'inscrit, on le soutient pour y aller, c'est-à-dire qu'on lui paye les déplacements, etc. Parce que c'est un livre, ça, il commence à vivre une fois qu'il est imprimé, il n'existe pas avant. Et qu'une fois qu'il est imprimé, il faut que l'auteur comprenne que écrire c'est une chose, mais faire vivre son livre, ça n'est une autre. Et que s'il ne veut que écrire, eh ben, il garde son manuscrit parce qu'il ne sera pas publié.
Voilà pour cette rentrée littéraire 2025.
C'est très dur ce que j'ai dit.
C'est parce que j'ai écouté aussi l'émission sur France 2 qui parlait de la rentrée littéraire et qui donnait ces chiffres qui sont incroyables. Quoi.
Ouais, Philippe Tubercast, je sens que vous allez finir sous Prozac après cette émission. Je ne sais pas pourquoi, mais, je sens une voix très dépressive. Là.
J'ai l'impression que voilà, tous ces libraires indépendants, c'est des guerriers. Quoi. C'est vraiment
ce sont des guerriers,
tout à fait.
Vous confirmez, Lucie Blessala?
On se donne à fond en tout cas.
Ouais, mais il y a pratiquement pas de quelque chose d'économique derrière, quoi. C'est plus une volonté,
c'est une vocation.
Et ça tient. Enfin, je me demande des fois comment ça peut tenir, quoi. Voilà.
Mais moi, c'est pour ça. On a invité Lucie Plassala aujourd'hui pour son quartier libre, donc pour nous présenter des romans, des mangas, etc. Il faut aller voir Lucie Plessala. On l'invite pas par hasard dans Un jour un livre et un auteur. C'est que c'est une vraie libraire, c'est-à-dire elle fait des choix, vous avez bien vu les choix qu'elle fait. Il n'y avait pas que des choix de la rentrée littéraire, c'est-à-dire qu'ils lui sont imposés effectivement par des éditeurs. C'est des livres qu'elle a lus, qui lui parlent et qu'elle a envie à un moment donné de porter, pas de vendre, de porter. Donc je pense que ça, c'est voilà. Et nous, on est là pour ça aussi. Un jour, un livre, un auteur. C'est aussi de parler effectivement de ces livres dont personne ne parle, mais qui nous ont parlé à nous. Et on se dit qu'ils pourraient peut-être pas parler à d'autres. C'est tout l'intérêt de cette émission littéraire. C'est une belle fin, ça, non? Une belle conclusion, Philippe Subercase. Là, je pense que vous allez visiter le cachet de Prozac, là, du coup.
Voilà, je vais finir la tablette. merci beaucoup, toujours, à Lucie Plessala.
Merci, Lucie.
Elle est fidèle et on l'appelle régulièrement. Et on va rappeler où c'est que sa librairie se trouve.
La librairie Bleu et Or, donc à Saint-Lary-Soulan, qui est dans la rue Mire. Et on recommande, effectivement, puisqu'on est écouté sur toute l'ancienne région Midi-Pyrénées, à tous ceux qui viennent en vacances dans la Vallée d'Or à Saint-Lary-Soulan pour faire du ski, de la montagne, enfin, tout ce que vous aimez faire comme activité donc de montagne, vraiment d'aller voir cette librairie qui est une librairie extraordinaire qui est ouverte tous les jours en plus.
Et même à Noël, ça c'est toujours quelque chose qui m'épate.
Mais ça c'est Lucie Plessala. C'est ça la vocation, Philippe Subercase, c'est même le jour de Noël, voilà, elle est ouverte. Merci beaucoup en tous les cas, Lucie Plessala, pour nous avoir accompagnés pour votre quartier libre dans Un jour, un livre et un auteur. On vous dit à très bientôt. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.